Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Socrate, depuis lundi, comparé devant le tribunal athénien. Mis en accusation pour corruption de mœurs, impiété et invention de divinités nouvelles, il trouble l'ordre établi en distillant du doute sur la place publique. Alors si les accusations ont été clairement énoncées hier à ce même micro, comment Socrate s'est-il défendu ? A-t-il eu recours à un avocat ? Et quelle fut sa ligne de défense ? Réponse aujourd'hui en compagnie du philosophe Dimitri Almur.
L'audience est ouverte. La défense est-elle représentée ?
La défense est présente.
Parfait.
Bonjour Dimitri Almur.
Bonjour Adèle.
On peut vous présenter comme l'avocat de Socrate ou pas ?
Alors, l'avocat de Socrate, disons que Socrate n'a pas vraiment besoin d'avocat, sachant que Platon, c'est quand même... Platon, un parmi beaucoup, beaucoup d'autres, je tiens à le dire, c'est quand même chargé de cette tâche avec un, comment dire, un succès, un brio que tout le monde connaît. Mais Platon n'étant que l'un d'entre eux. Pensons à Xénophon et à tout un ensemble, toute une littérature qu'on a perdue, c'est quand même important de le dire, qui a passé son temps à répondre aux accusations de Socrate et répondre à ceux des accusateurs de Socrate qui continuaient à dire qu'il avait été justement puni. Voilà.
Et vous êtes l'un d'entre eux également, Dimitri Almur. Vous êtes professeur de philosophie à l'École normale supérieure, auteur de « Savoir et gouverner », essai sur la science platonicienne, publié chez Vrin. Et vous allez donc, si ce n'est jouer le rôle de l'avocat de Socrate, du moins représenter la défense aujourd'hui, même si, comme vous le dites, il le fait très bien tout seul.
Songez-y, si vous me faites mourir, vous ne trouverez pas facilement un autre homme. Je le dis au risque de prêter à rire. Un homme attaché à vous par la volonté des dieux pour vous stimuler comme un taon stimulerait un cheval grand et de bonne race, mais un peu mou, en raison même de sa taille, et qui aurait besoin d'être excité. Cet office est celui pour lequel le Dieu semble m'avoir attaché à votre ville. Et voilà pourquoi je ne cesse de vous stimuler, de vous exhorter, de m'originer chacun de vous, en l'obsédant partout, du matin jusqu'au soir. Non, juge, vous ne trouverez pas facilement mon pareil, et par conséquent, si vous m'en croyez, vous me garderez précieusement. Seulement, il est bien possible que vous vous impatientez, comme des gens ensommeillés qu'on réveille, et qu'alors, dans un mouvement de colère, vous écoutiez Anitos et me fassiez mourir étourdiment. Après quoi, vous passeriez le reste de votre vie à dormir, à moins que le Dieu, prenant souci de vous, ne vous envoyât quelqu'un pour me suppléer.
Cher monsieur, m'ont-ils dit, vous en êtes un autre, lorsque je refusais de monter dans leur train. Oui, sans doute, mais moi, je fais pas le bon apôtre. Moi, je n'ai besoin de personne pour en être un. Le pluriel ne vaut rien à l'homme et c'est au con. N'est plus de quatre, on est une bande de cons. Bande à part, sacre bleu, c'est ma règle et j'y tiens. Dans les noms des partants, on verra pas le mien.
Et oui, le pluriel ne sied pas beaucoup à l'homme, chante Brassens, et Socrate lui-même se présente comme un homme, ou plutôt comme un taon, T-A-O-N, dans le texte qu'on vient d'entendre Dimitri Almur, un extrait de l'Apologie de Socrate interprété par Michel Bouquet, c'est source de l'INA. Socrate se présente donc dans ce texte comme un taon qui vient piquer la cuisse d'un cheval, et il dit aux Athéniens, il les menace presque, puisqu'il le but est quand même de se défendre à travers la plume de Platon, on est à quelques années après le procès. Si en effet vous me faites périr, il ne vous sera pas facile d'en trouver un autre qui soit comme je suis. En clair, je suis peut-être le seul de mon espèce, mais je vous suis indispensable.
C'est exactement ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est de remettre cette comparaison avec le taon. Dans le contexte, c'est pas la seule comparaison en fait dans les dialogues de Platon et d'ailleurs dans la littérature socratique qui se rapporte à Socrate. J'en donne deux autres exemples. Il y en a un très célèbre, c'est évidemment la comparaison que Alcibiade fait de Socrate comme une
comme une sorte de poupée russe dans laquelle on a la représentation d'un satyre et à l'intérieur il y a un dieu, bon, c'est un texte très connu, dans le banquet, la fin du banquet. Et il y en a une autre qui est tout à fait parallèle à celle du temps, c'est celle du Ménon où Socrate est comparé à une torpille, alors c'est-à-dire à une raie qui provoque un électrochoc. Alors les deux se rapprochent évidemment très bien parce qu'ils ont tous les deux la même fonction. Ce qui est spécifique dans l'apologie, c'est que c'est Socrate lui-même qui se compare à un temps. Et c'est ça qui est intéressant. Mais les deux idées sont parallèles, à savoir qu'effectivement, Socrate provoque un électrochoc. Et il provoque un électrochoc à Ménon quand Ménon lui parle, mais il provoque aussi un électrochoc et une sorte d'agacement, de piqûre, comme ça, aux Athéniens. Alors, qu'est-ce que c'est que cette piqûre qui provoque? Ben, on pourrait se dire qu'en un certain sens, les dialogues de Platon, beaucoup d'entre eux nous racontent la piqûre incessante que Socrate ne cesse d'infliger à tous les interlocuteurs avec lesquels il parle. Hein. Il y a quelque chose de même de plus sérieux dans cette comparaison, c'est que le temps, c'est ce qui empêche de dormir, hein, un peu comme les cigales du Phèdre empêchent aussi de dormir. C'est-à-dire que le temps socratique, c'est celui qui vous rappelle, enfin c'est comme ça que Platon le met en scène, qui vous rappelle que ce que vous faites, c'est pas ce que vous avez de mieux à faire. Et dans les termes de l'apologie, hein, c'est un passage de la fin de l'apologie où Socrate explique aux Athéniens qu'il a beau être lui-même accusé. En fait, c'est lui qui les accuse.
Alors, dites-nous deux mots de l'apologie de Socrate, parce qu'on fait comme si ce texte était connu. Il a un statut particulier quand même dans l'œuvre de Platon.
Oui, c'est un texte très particulier. C'est pas vraiment un dialogue, même s'il y a des parties dialoguées. C'est un texte qui est particulier aussi parce qu'il appartient de manière très notable à un type de texte, à un genre de texte qui est le genre de la défense oratoire. Donc c'est des codes que Platon subvertit, transforme. Bon là ça devient un peu technique, mais c'est extrêmement important de le mettre de le réinscrire dans son genre littéraire. Et par ailleurs, troisième spécificité, l'apologie de Socrate n'est pas l'apologie de Socrate de Platon, pardon, n'est pas la seule apologie.
Il y a celle de Xénophon.
Il y a celle de Xénophon et vraisemblablement il y en avait d'autres. Donc c'est une défense, voilà. Alors qu'est-ce que celle de Platon a de spécifique? C'est que c'est une défense qui est en fait une accusation. Bon, je dis ça de manière un peu paradoxale et provocatrice, mais c'est pour essayer de faire passer cette idée que Socrate va quand même raconter son procès. Enfin, Platon va raconter le procès de Socrate. Et ce que raconte ce procès, c'est comment Socrate, justement, accuse les Athéniens. Et ce qu'il leur reproche de ne pas faire. Et tout en racontant évidemment son propre parcours. Donc c'est une défense en forme d'attaque, si vous voulez. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que il y a quelque chose de très virulent aussi dans la charge que Platon inflige aux Athéniens.
Et c'est ce qui d'ailleurs en dit long sur la conception que Socrate se fait de la vérité, hein, qui justement se situerait peut-être dans une, non pas dans le fait d'endosser une défense, mais de continuer à distiller ce doute, y compris dans un discours qui devrait servir à le défendre et qui en fait continue à accuser. Un point, avant qu'on en arrive précisément au contenu même de cette défense, Dimitri Elmure, nous avons présenté hier les chefs d'accusation, corruption des mœurs, impiété et invention de divinité nouvelle. Est-ce que vous souscrivez, parce que le doute subsiste encore, hein, des motifs réels de l'accusation de Socrate, ou est-ce que vous pensez qu'en réalité c'est ça, son rôle en tant que philosophe dissident dans la cité qui a été condamné?
Ah, c'est extrêmement difficile de trancher cette question, parce que même les historiens ne sont pas d'accord. Mais
vous, spécialiste de Platon,
alors,
vous pensez
moi, juste pour vous dire une chose, il y a plusieurs points. Premier point, est-ce que oui ou non les trois chefs d'accusation sont solidaires l'un de l'autre en tant qu'accusation légale et faisaient partie du type d'accusation qu'on a imputé à Socrate? Ça, c'est une question débattue. Donc, si oui, il n'y a pas vraiment lieu de distinguer entre les différents chefs d'accusation. Sinon, il faut se demander effectivement comment chaque chef d'accusation a pu donner lieu à une défense de type particulier dans les dialogues. Bon, ça, c'est une première chose. Après, il est bien évident que, oublions cette question historique, posons la question juste philosophiquement, c'est quand même intéressant de se dire qu'effectivement, dans les dialogues de Platon, on voit Socrate, avoir des relations avec la jeunesse, que d'un certain point de vue, on pourrait comprendre comme de la corruption. Je vous donne un exemple, vous en avez peut-être déjà parlé, mais c'est le début du Lysis, je trouve que c'est un texte fantastique de ce point de vue-là. Socrate arrive, voit deux jeunes gens à la palestre, des préadolescents, hein, on est à 12-13 ans,
Il va leur expliquer, donc ses deux amis, il va leur expliquer en fait qu'ils sont pas du tout amis, et surtout il va leur expliquer que, il va expliquer à Lysis que ses parents ne l'aiment qu'en tant qu'il est utile. Or, on est utile que si on est savant, comme il n'est pas encore savant, ses parents ne l'aiment qu'en tant qu'il va devenir savant, et donc le savoir est la seule condition de l'utilité, donc du bien. Vous imaginez que ce genre de discours dit à un enfant où on explique que ses parents l'aiment pas vraiment ou l'aiment que en tant qu'il est savant, donc il apprend quelque chose, ça peut être compris de manière extrêmement provocatrice et comme une sorte d'attaque en règle de la famille, si vous voulez, pour dire les choses platement. Hein. Or, évidemment, c'est pas ça. Au contraire, Socrate, justement, joue au temps ou joue à l'électrochoc, hein, à la rétorpie et réveille la conscience même de ce tout jeune Lysis.
En tout cas, il joue. Ça, c'est sûr, et c'est peut-être ce qui agace prodigieusement les personnes présentes au tribunal au moment de son procès. On va même jusqu'à dire que c'est en faisant son propre éloge devant le tribunal qu'il va susciter la jalousie des juges et va les inciter à le condamner à mort. Il faut bien inscrire la stratégie de défense de Socrate dans le cadre plus large de sa philosophie, en tout cas telle qu'elle a été relatée par Platon. Voici un autre texte très intéressant, du Gorgias cette fois-ci de Platon, où on entend, alors ici, il faut voir que Socrate rencontre le jeune Polos et qu'il discute de l'importance de la rhétorique. Et dans ce texte, on y entend comment, finalement, on se trompe sur la conception de la vérité. On pense qu'une vérité peut être défendue par le discours et qu'il s'agit du coup de proposer une joute verbale, accusation contre défense, pour atteindre la vérité. Or, il n'en est rien. Écoutez le texte.
Comment, mon bon, je ne suis d'accord avec rien de ce que tu dis.
Parce que tu ne veux pas l'être, mais en fait, tu penses exactement comme moi.
Très cher ami, tu te mets à me réfuter comme les rhéteurs au tribunal. Quand ils veulent convaincre la partie adverse de fausseté, ils présentent des témoins contre elle. Mais ce genre de réfutation n'a aucune valeur pour la recherche de la vérité. Car il arrive parfois qu'un homme soit mis en cause par des faux témoignages. Surtout en ce moment, presque tout le monde, athéniens et étrangers, sera d'accord pour témoigner contre moi et jurer que je ne dis pas la vérité. Tu auras, si tu veux, les témoignages de l'entourage de Périclès, plus ceux de n'importe quelle famille d'Athènes. Mais sache que moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Même si je suis le seul à ne pas l'être et que tu ne peux pas me forcer à être d'accord. Seulement, avec tous les faux témoignages que tu présentes contre moi, tu essaies de me déposséder de tout mon bien, la vérité.
Et voilà le fin mot de l'affaire, c'est la vérité, mais non pas la vérité au sens où les juges athéniens l'entendent, à savoir Socrate est-il vraiment coupable d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ou non, mais un autre type de vérité. Quel est-il, Dimitri Elmure? Parce que finalement, tout repose là-dessus.
Bah, c'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, enfin, que je commençais à dire, c'est-à-dire qu'en parlant de l'apologie, en disant Platon subvertit un genre qui est celui de la défense oratoire. Il est bien évident que du point de vue de Platon, et notamment du point de vue de sa condamnation de la rhétorique, c'est pas dans un tribunal que la vérité peut advenir, clairement. Et donc, il y a quand même une sorte de paradoxe et de difficulté intrinsèque pour Socrate à être Socrate dans le cadre d'un tribunal. Et c'est pour ça que l'apologie est aussi étrange. C'est pour ça que c'est une défense aussi paradoxale, une défense en forme d'attaque. C'est parce que Socrate ne peut pas être autre chose que Socrate le cadre d'un tribunal. Ce que ce texte du Gorgias explique, c'est précisément ça. C'est-à-dire que quand on est Socrate et quand on recherche la vérité, hein, inconditionnellement, il est bien évident que le lieu même du tribunal, ou le lieu même, si vous voulez, de l'échange, de la joute oratoire où on va opposer les arguments sans souci de la recherche en commun du vrai, il est bien évident que dans ce contexte-là, la vérité peut difficilement advenir. Et donc, de ce point de vue-là, l'écriture de l'apologie est d'une seule pièce avec la critique très violente de la rhétorique qu'on trouve dans le Gorgias. Hein. Critique très violente qui va d'ailleurs amener, qui va de pair, avec une critique très virulente aussi de la politique, qui va quand même amener Socrate à dire à la toute fin du Gorgias, aux alentours des pages 520, à dire que c'est le seul homme politique à Athènes.
Donc c'est Socrate lui-même.
Socrate lui-même. Je suis le seul homme politique à Athènes.
Alors vous dites qu'il attaque la rhétorique. La rhétorique, c'est la stratégie employée par tout le personnel judiciaire, pour le dire clairement, pour plaider une cause. Donc c'est en fait il attaque le système judiciaire à sa base.
Oui, mais il attaque le médium de la démocratie, pour dire les choses comme ça. Le médium.
Et pourtant, il n'est pas contre la justice. Où l'est-il ?
Non, bien sûr, il n'est pas contre la justice, mais simplement, il note les limites. Du dispositif qui voudrait que un auditoire juge de la vérité d'une chose en votant. Et donc, en étant persuadé par celui qui parle. Or, c'est pas comme ça que ça se passe. La vérité ne n'éclot pas dans ce genre de conditions. Elle peut éclore. C'est pas impossible. Y a pas. Mais la recherche de la vérité ne fonctionne pas sur ce régime-là. Et c'est ça que Socrate voit, et c'est la difficulté qu'il voit. C'est un des problèmes une des choses qu'il reproche à la démocratie. La démocratie a, comment dire, quintessentiellement, je vais y arriver, liée à la rhétorique, parce que la démocratie est fondée sur ce qu'on appelle l'iségorie, c'est-à-dire le droit égal à la parole, et que ce droit égal à la parole, c'est ce qui constitue même le citoyen. Il y a l'iségorie d'une part et l'isonomie d'autre part, le droit, enfin l'égale relation face à la loi. Et ces deux piliers, iségorie, isonomie, font de la rhétorique un élément indispensable à la démocratie. Et ça, c'est un problème.
Plus tard dans le Gorgias, on peut lire ceci, c'est Socrate qui parle. « Veux-tu savoir quel type d'homme je suis ? Eh bien, je suis quelqu'un qui est content d'être réfuté quand ce que je dis est faux. Quelqu'un qui a aussi plaisir à réfuter quand ce qu'on me dit n'est pas vrai, mais auquel il ne plaît pas moins d'être réfuté que de réfuter. En fait, j'estime qu'il y a plus grands avantages à être réfuté dans la mesure où se débarrasser du pire des mots fait plus de bien qu'en délivrer autrui. Parce qu'à mon sens, aucun mal n'est plus grave pour l'homme que de se faire une fausse idée des questions dont nous parlons en ce moment. Donc si toi, tu m'assures que tu es comme moi, discutons ensemble, sinon laissons tomber cette discussion et brisons-la. » Lire ce texte à Télé-Ou, tous les étudiants en terminale pour apprendre à discuter argument contre argument, Dimitri.
J'espère qu'ils lisent ce texte, tous les étudiants en terminale.
Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire en même temps.
Oui.
Discuter non pas pour avoir raison, mais aussi pour le plaisir de réfuter et d'être réfuté, c'est-à-dire vraiment de rechercher une forme de vérité.
Ce qui est fascinant, c'est que tous les interlocuteurs de Socrate, et Platon fait exprès de les mettre en scène comme ça, pensent que Socrate ironise. C'est fait pour. C'est fait pour qu'il croie ça et qu'ils en soient excédés. Mais comment tu me dis que tu veux être... Bien sûr, tu fais encore tes tours.
Tu veux juste avoir raison. Voilà.
Mais le point est qu'il est parfaitement sérieux. Mais c'est d'une logique implacable. Si le seul vice de l'âme, c'est l'ignorance, c'est ce que pense Socrate. Mais alors dans ce cas-là, évidemment, vous voulez être réfuté, vous désirez être réfuté, parce que vous ne pouvez pas vouloir volontairement le faux, puisque vous ne pouvez pas vouloir volontairement le mal. Pour vous-même. Donc, si vous voulez, la grande force de l'intellectualisme socratique, c'est-à-dire l'idée que l'âme désire toujours le bien, inconditionnellement, le bien pour soi-même, et le bien réel, va de pair avec une condamnation radicale de l'ignorance, qui fait que, bien sûr, on veut être réfuté. Alors évidemment, c'est une idée qui ne passe pas dans un tribunal, puisque dans un tribunal, le but n'est pas d'avoir raison, le but est de gagner. Donc voilà, et c'est ça que Socrate soulève.
Donc ce que vous dites, c'est que Socrate ne défend pas tant lui-même qu'une certaine idée de la vérité qui est contre celle des tribunaux et des sophistes.
Oui.
On peut le dire ainsi.
Oui, très clairement, c'est ça. C'est-à-dire que, et par lui, Platon défend évidemment aussi à la fois une certaine idée de la vérité, comme vous dites, et aussi, défend l'idée et l'image de Socrate, c'est-à-dire ce qu'incarne Socrate pour lui, en essayant de comprendre comment un régime comme la démocratie athénienne, qui avait quand même beaucoup de qualités, faut pas non plus caricaturer, et je fais une parenthèse, mais sa plus grande qualité quand même, c'est d'avoir permis à Platon, Xénophon, Aristote et d'autres, et tant d'autres, de le critiquer. C'est quand même le régime le plus critiqué qui soit. Tout ce qu'on a sur la démocratie athénienne...
Alors pourquoi Socrate a été condamné à mort et pas les autres ?
Alors c'est justement ça le mystère. C'est ça le mystère. Il faut pas enlever la part de mystère à cette question. C'est pour ça que le procès de Socrate, comme le procès de Jésus, pardon cette comparaison qui est assez banale, mais c'est quelque chose qui trouble encore l'esprit. Il y a eu quand même des milliers de livres qui ont été écrits là-dessus. J'ai pas la réponse à la question que vous me posez. J'aimerais bien. Mais si vous me dites pourquoi la démocratie a tué Socrate, j'ai quelques éléments de réponse. Beaucoup d'historiens ont des éléments de réponse. Les philosophes en ont aussi. Quelles sont les réponses les plus convaincantes? Je n'en sais rien. En tout cas, il faut commencer pour poser le problème par rappeler ce que je disais, à savoir que oui, la démocratie était effectivement un régime où on avait une vraie liberté de parole. Effectivement, tous les philosophes ont critiqué la démocratie, tant et si bien qu'on n'a pas gardé un texte qui fait l'apologie de la démocratie.
On n'a que des critiques de la démocratie. Je veux dire, le socle de la politique occidentale naît d'une, de la critique de la démocratie. Enfin, c'est quand même un peu, c'est quand même un peu fantastique. Mmh. Et pourtant, Socrate a été mis à mort. Alors, parmi les raisons, j'en donne une qui est souvent évoquée, mais qui est intéressante, c'est l'éventuel rapport que Socrate pouvait avoir avec l'oligarchie.
Alors, il faut rappeler le contexte ici, parce que quand la démocratie athénienne condamne Socrate, on est quelques années après la fin de la guerre dite du Péloponnèse, où Athènes va perdre contre Sparte, et quelque temps aussi après le règne des 30 tyrans, donc le moment où Athènes a été dirigée par une oligarchie, ces 30 tyrans, auxquels d'ailleurs Socrate a refusé d'obéir.
Tout à fait.
En toute fidélité à la démocratie qui ne lui a pas du tout rendu.
Tout à fait. Mais on sait aussi par ailleurs que Socrate, que les amitiés de Socrate et les cercles socratiques étaient des cercles dans lesquels on défendait une certaine conception disons différente de la démocratie. Je veux dire par là que, prenons une catégorie pratique, les intellectuels, philosophes et écrivains importants qui réfléchissaient à cette question du régime et du meilleur régime, qui ont connu la guerre du Péloponnèse, qui ont connu les tentations oligarchiques, qui ont connu la défaite de la démocratie, ont passé leur temps à réfléchir à des modèles alternatifs. Platon ne fait rien d'autre, Aristote ne fait rien d'autre non plus, Xénophon, idem, et tous ceux qu'on a perdus. Donc, tous ces gens-là réfléchissaient à ces modèles alternatifs, et on les a laissés faire. Clairement, Socrate a joué un rôle dans cette recherche. Par exemple, d'un point de vue platonicien, disons les choses comme ça, on peut très bien comprendre l'entreprise fondamentale de la philosophie politique de Platon comme la recherche d'un régime où Socrate est possible. Alors, il a été possible dans la démocratie athénienne, mais un régime où Socrate ne serait pas mis à mort. Hein. C'est une formule un peu, mais elle permet quand même de comprendre l'importance que la mort de Socrate et son procès ont pu avoir pour une théorisation politique telle que celle de Platon. Mais toujours est-il que, je termine là-dessus, l'ensemble de ce climat des cercles socratiques a des connexions avec des tendances oligarchiques, c'est-à-dire avec des critiques de la démocratie qui disaient, écoutez, si on était un peu moins à gouverner, et si c'était pas le gouvernement du peuple, mais d'une certaine élite, on serait peut-être pas plus mal. Bon, voilà une raison possible.
Dire que la République de Platon, qui met en scène Socrate, donne raison à cet argument. Mmh. Socrate n'est pas pour un gouvernement du peuple par lui-même, c'est le moins qu'on puisse dire.
Alors, il y a une raison de fond pour ça. C'est la grande critique platonicienne. C'est là où Platon, évidemment, passe un... Et au-dessus des autres, de ceux qui ont tenté d'expliquer la mort de Socrate, c'est la thèse platonicienne fondamentale qui soutient qu'il y a une incapacité structurelle, une incompatibilité structurelle entre la démocratie et la connaissance.
Alors, on va y venir parce que c'est effectivement le fond de l'affaire. Vous avez dit Socrate, pour se défendre, accuse, et il accuse en premier lieu la démocratie.
Le jeune homme confie toujours le commandement de son âme au plaisir qui surgit soudainement, comme s'il était soumis au destin, jusqu'à ce qu'il en soit rassasié. Puis il s'abandonne à un autre, et cela sans en mépriser aucun, mais en les nourrissant de manière égale. Si on se risque à lui dire que certains plaisirs découlent de désirs nobles et bons, alors que d'autres naissent de désirs mauvais, et qu'il faut cultiver et valoriser les premiers, réprimer et dompter les seconds, dans toutes ces circonstances, il hoche la tête en signe de dédain. Pour lui, selon ce qu'il prétend, ils sont tous pareils et doivent être considérés de valeur égale. Il passe ses journées à satisfaire sur cette lancée le désir qui fait irruption. Aujourd'hui, il s'enivre au son des flûtes. Demain, il se contente de boire de l'eau et se laisse maigrir. Un jour, il s'entraîne au gymnase. Le lendemain, il est lascif et indifférent à tout. Et parfois, on le voit même donner son temps à ce qu'il croit être la philosophie. Souvent, il s'engage dans la vie politique et se levant sur un coup de tête, il dit et fait ce que le hasard lui dicte. S'il lui arrive d'envier les gens de guerre, le voilà qui s'y implique. S'agit-il des commerçants, il se précipite dans les affaires. Sa vie ne répond à aucun principe d'ordonnancement, à aucune nécessité. Au contraire, l'existence qu'il mène lui semble mériter le qualificatif d'agréable, libre, bienheureuse, et il vit de cette manière en toutes circonstances.
Vous écoutez France Culture, les heures séculaires et instantanées d'Éric Satie, qui suit la lecture, l'interprétation par Olivier Martineau, du portrait de l'homme démocratique qu'on trouve au chapitre 8, au livre 8 de La République de Platon. Ce portrait, Dimitri Almur, qui est très agréable à écouter, très imagé, a ceci de génial qu'il est ambigu, c'est-à-dire qu'on pour une lecture hâtive verrait un portrait au fond pas très critique. On disait bah voilà à quoi ressemble l'homme démocratique. Or c'est en fait, il faut vraiment entendre la charge très très forte qu'il y a derrière cet homme virevoltant qui s'adonne à toutes les activités de son choix, cette soi-disant liberté que la démocratie accorde est pour Socrate un danger absolu.
C'est un texte, vous avez raison, c'est un texte extraordinaire. Et là où il est extraordinaire, effectivement, c'est dans sa violence un peu feutrée.
C'est ça.
Pour dire des choses un peu comme ça. C'est-à-dire que, grosso modo, la thèse qui est soutenue, c'est de dire que, voilà, la démocratie est un supermarché, et que dans ce supermarché, on peut satisfaire tous ses désirs, et que du coup, ces désirs, parce qu'on est libre de les satisfaire, nous mènent...
un jour à jouer de la flûte, un autre à aller au gymnase...
Un jour à faire de la philosophie, un jour à être politique, etc., etc. Donc ça permet tout, et effectivement, vous comprenez pourquoi, et c'est pour ça que la critique est un peu feutrée quand même, vous comprenez pourquoi Platon explique que, quitte à ne pas vivre dans le meilleur des régimes, autant vivre en démocratie. Parce qu'au moins, on peut vivre un peu sur son quant à soi, et effectivement adopter une position quiétiste, voire se retirer, faire de la philosophie, etc.
Et être libre.
Et être libre. Au moins, on ne sera pas sous la tyrannie. Donc voilà, ceci dit, pour rappeler la tarte à la crème consistant à dire que voilà, la démocratie, c'est le second best, le pis-aller. Le moins pire des régimes. C'est pour cette raison-là. Hein. Alors, la critique... Donc ça, c'est pour l'aspect feutré. Maintenant, pour l'aspect virulent, la vraie critique, elle est où ? La critique, en fait, qu'on a en République 8, c'est une, selon moi, des deux critiques que Platon fait de la démocratie et, disons, que Socrate fait de la démocratie.
République 8, dans votre jargon, Dimitri Almur, c'est le livre
8
de la
République. Tout à fait, voilà. Pardon, c'est une habitude.
Un réflexe.
Alors, la critique qu'on trouve dans le livre 8 de la République, c'est que la démocratie... et le régime de la liberté. Alors, vous allez dire, très bien.
Jusque-là, pas de problème.
Question qu'on est amené à se poser en philosophe, oui, mais de quelle liberté on parle ? Est-ce qu'on parle d'une liberté politique, une liberté, que sais-je, constitutionnelle ou juridique ? Non. Ce qui est intéressant, c'est que Platon ne considère même pas la question de la liberté politique, ça n'existe pas. C'est uniquement la liberté de licence. Ce qu'on appelle la liberté de licence, c'est-à-dire la liberté de faire ce que je veux. Okay. Et c'est ça qui est décrit dans le texte qui vient d'être lu. Hein. De faire X, de faire Y, sans aucune cohérence, sans aucune constance, etc. Donc la démocratie, c'est la liberté de licence. Et si on accepte cette prémisse, qui est évidemment ce qu'on peut discuter, on comprend pourquoi, in fine, l'argument de Platon est le suivant, la démocratie s'auto-détruit. Comme elle est fondée, comme c'est un régime de la liberté, c'est un régime qui inclut tout. Et comme c'est un régime qui inclut tout, il inclut même son contraire, il inclut même les instances qui vont le détruire, et finalement, elle va finir par se transformer, peut-être en tyrannie ou peut-être en autre chose, mais à s'auto-détruire.
Et le procès de Socrate en est la preuve. La condamnation à mort de Socrate est la preuve de la faiblesse de la démocratie.
C'est ce que pense Platon, effectivement. Mmh. Alors ce qui est intéressant, c'est que le procès de Socrate s'explique aussi du fait de la deuxième critique. De la démocratie qu'on ne trouve pas dans la République, ça c'est pas quelque chose qui est développé dans la République, qu'on trouve dans d'autres dialogues, notamment le politique, qui est une critique plus technique, qui est une critique que j'appelle épistémique, parce que c'est une critique qui est fondée sur l'incompatibilité entre démocratie et connaissance, où là, on va accorder à la démocratie qu'elle va chercher à gouverner d'une certaine manière, et montrer simplement que son mode de gouvernement, parce que c'est un mode qui est fondé sur l'opinion, ce que Platon appelle la doxa, est irrémédiablement coupé de la compétence. Et parce qu'il est coupé de la compétence, il est nécessairement inefficace, donc mauvais.
Une phrase à retenir du texte que vous citez, c'est « Point n'est besoin d'être plus savant que les lois ». En clair, en démocratie, les lois savent à notre place. Voilà. Pas besoin de savoir, puisque le savoir est détenu par les symboles et les lois.
C'est une phrase c'est une citation de Politique de 199 et quelques, est bonne, et qui est en fait une citation même de Thucydide. C'est une reprise que Platon fait d'une phrase de Thucydide.
On voit que vous n'avez pas remis entre les mains des lois la capacité de connaître ce dont vous parlez.
Non, mais bon, c'est un texte sur lequel je travaillais, c'est pour ça que je peux me rappeler de la citation, mais le passage d'où est extrait cette citation est un passage absolument, lui aussi, extraordinaire, plus aride que le texte de la République qu'on vient d'entendre, mais extraordinaire pour son argument, puisqu'en fait, il reprend un des passages les plus connus de la République, qui est vous en avez peut-être déjà parlé d'ailleurs, qui est l'analogie entre la cité et le navire. Peut-être que vous en avez déjà parlé.
Pas du tout, allez-y.
C'est le grand modèle que Platon prend pour comprendre la démocratie. La démocratie, c'est un navire. La cité, c'est un navire. Et la démocratie, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un navire qui est mené par des matelots qui ont décidé de prendre le pouvoir et de pas du tout s'occuper du pilote. C'est-à-dire de celui qui sait, mener le bateau dans la tempête. Et donc, c'est un navire qui va à volo. Dans la tempête, qui va nulle part. Le Politique et le texte dont vous parliez reprend ce modèle, mais en accordant quelque chose aux marins. Les marins veulent se dispenser du pilote, mais ils cherchent quand même à se diriger dans la tempête. Et en cherchant à se diriger dans la tempête, comment ils font? Ils font comme font tous les démocrates, c'est-à-dire qu'ils votent. Et ils ne cherchent pas à savoir qui est le plus compétent. Ils ne se disent pas, tiens, quelqu'un est compétent pour faire des chaussures, lui il est cordonnier, quelqu'un est compétent pour soigner, il est médecin. Peut-être que quelqu'un serait compétent pour faire de la politique et on pourrait l'appeler homme politique. Non, la politique, selon eux, est une affaire d'opinion, donc une affaire du plus grand nombre. Et c'est pour ça, selon Platon, que le navire va à la catastrophe.
Quiconque sera vu en train de mener, en ne se conformant pas à ce qui est écrit, des recherches sur l'art de conduire les navires, sur ce qui intéresse la santé, sur la vérité médicale relative aux airs, sur le chaud et le froid, et de faire le savant en ces matières, cet homme-là, d'abord, on ne l'appellera ni médecin, ni capitaine, mais tête en l'air, un bon à rien, et un sophiste. Après quoi, sous prétexte qu'il corrompt d'autres gens, plus jeunes, qu'il persuade de se poser en capitaine de navire ou en médecin sans se régler sur les lois, mais en exerçant une autorité absolue sur les navires et sur les malades, celui qui le souhaite parmi ceux qui en ont le droit le traduira devant un tribunal après avoir dressé un acte d'accusation. S'il est convaincu de persuader les gens, jeunes ou vieux, d'aller contre les lois, c'est-à-dire contre les prescriptions écrites, il sera condamné aux peines les plus sévères. Point n'est besoin d'être plus savant que les lois, puisque personne n'ignore la médecine, l'hygiène, le pilotage de navires et la navigation. Il est loisible, en effet, à qui le souhaite, d'apprendre ce qui a été écrit, aussi bien que les coutumes ancestrales établies. Supposons que nous ayons asservi à des codes écrits chacune des activités dont nous avons parlé, et supposons que l'un d'entre nous, désigné par un vote à main levée ou par un tirage au sort afin de gouverner, ne fasse alors aucun cas de ces écrits, alors qu'il n'y connaît rien. Est-ce que ce mal ne serait pas encore pire que le précédent ? Une grande partie du plaisir de discuter, de proposer des dialogues philosophiques à la radio, Dimitri Elmure, c'est de pouvoir écouter les textes dont on parle. Donc je viens de lire le texte que vous évoquiez, qui est en effet très très beau, imagé. Et on voit que la métaphore du procès est présente. En fait, c'est ça l'important, c'est qu'ici, Socrate parle de son propre procès, sans doute.
Mais alors, ce qui est fascinant, c'est que ce texte a été écrit vraisemblablement bien après la République, et ça montre que Platon n'a jamais... ce problème ne l'a jamais quitté, vous voulez. Le scandale de la mort de Socrate ne l'a jamais quitté. Là c'est l'étranger Délée qui parle, donc c'est un personnage qui parle devant Socrate, Socrate silencieux, qui l'écoute, et c'est évidemment... Alors, il y a une double référence. C'est-à-dire que le texte que vous avez lu, quand vous avez commencé à lire en disant qu'on en parlera comme d'un bavard, d'un tête en l'air, etc. C'est des termes qui, en grec, donc adolescos, météorologos, etc., c'est des termes qui renvoient très directement aux nuées d'Aristophane.
Donc là encore, comme dans l'Apologie, hein, où Socrate explique que ben, Aristophane il a quand même joué un bon rôle dans son accusation. Ben, de la même, là, Platon revient à la charge en disant, voilà, si on se met dans cette perspective démocratique où seule la doxa, l'opinion, compte, et où on ne comprend pas que la politique est une histoire de compétences, alors évidemment, celui qui va être comme Socrate sera décrit comme un bavard, comme un tête en l'air, etc., parce qu'il viendra nous dire, non mais Athénien, attendez, mais commencez par réfléchir d'abord à ce que sont les choses et à les définir avant de prendre des décisions à tort et à travers. Donc, premier niveau, encore une fois, une réponse et une allusion à Aristophane. Décidément, Platon a du mal avec le fait qu'Aristophane, avec les nuées, c'est vraiment un... Voilà,
qui se moque, enfin qui met en scène un Socrate caricatural, qui descend de sa nacelle pour des nuées, voilà.
Ouais, voilà. Tout à fait. Et deuxième niveau, c'est le ton un peu tragique de ce texte. À la fin du passage, juste après le passage que vous avez lu, il y a l'étranger demande au jeune Socrate, qui est un homonyme avec lequel il parle, lui dire « Mais comment tu penses que serait la vie si tous les arts, toutes les technailles, c'est-à-dire la navigation, la médecine, etc., si elles étaient régies par la lettre écrite ? C'est-à-dire en fait par un ensemble d'opinions codifiées, et pas par le savoir. » Et il répond « Ah, mais la vie, qui est déjà très dure aujourd'hui, serait encore pire. » Et il y a une sorte de ton tragique là, dans le dialogue qui est un peu surprenante, où on voit bien que ce que reproche Platon par la bouche de Socrate à la démocratie athénienne, c'est aussi quand même d'arrêter de penser.
C'est-à-dire il y a aussi en filigrane ici une grande critique de l'écrit, puisque vous dites le problème de l'écrit, c'est que c'est là où se déposent les opinions. On a un texte, je crois que c'est dans le Phèdre, où Platon raconte le mythe du dieu égyptien qui, au moment de l'invention de l'écriture, est très inquiet parce qu'il se dit « mais les étudiants ne vont plus jamais rien apprendre puisque tout sera écrit ». Et c'est un argument qui se tient et qui est assez intéressant à brandir aux détracteurs de l'époque contemporaine. Chaque nouvelle invention est quelque chose, un moindre être, et finalement c'était toujours mieux avant. Pensons que, voilà, à une époque, l'écrit était jugé comme étant quelque chose de dangereux par rapport à l'oral.
Mais dans ce passage-là du politique, c'est une spécification de cette condamnation, puisque c'est le problème de l'écriture des lois. Donc
c'est
un problème très spécifique. Alors vous allez me dire, mais comment Platon, et le jeune Socrate d'ailleurs dans le dialogue réagit de la même manière, comment Platon peut dire qu'il ne faut pas écrire les lois ? C'est quand même une thèse complètement absurde. Alors il ne dit pas ça en fait, la condamnation est très subtile, il explique le type de rapport que un philosophe roi, pour faire dire les choses, un vrai politique, un homme qui n'existe pas encore, aura à la lettre écrite. Et la thèse de Platon, c'est une thèse très forte, consiste à dire, bien sûr qu'il faut des lois écrites. Évidemment qu'on a besoin de lois. Enfin, voilà. Pourquoi ? Parce que la science ne peut pas être toujours présente. Le philosophe roi doit s'absenter, il peut pas, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, etc., etc. En revanche, asservir la pensée à la lettre écrite, asservir la pensée à la loi figée, c'est contre nature. L'intelligence ne peut pas être asservie par la lettre écrite. Et donc, le véritable politique changera la loi quand il en aura besoin. Et le problème, effectivement, de la démocratie, c'est qu'elle ne peut pas arriver à ce niveau-là. La loi, c'est la loi.
Hein. Mais d'ailleurs, Socrate va la respecter. Il va accepter de boire la ciguë.
Tout à fait.
Donc il se soumet à des lois démocratiques jugées ineptes, quand même.
Alors c'est le grand argument du Criton. C'est le grand argument du Criton.
Autre dialogue
platonicien où on a une prosopopée des lois, où les lois disent à Socrate, non mais Socrate, on t'a nourri, on t'a élevé. C'est pas parce que t'es condamné à mort injustement qu'il faut te rebeller et t'enfuir de ta prison. Alors c'est un argument assez complexe et extrêmement fascinant. Mais j'ai envie de vous répondre par une sorte de pirouette. Socrate n'est pas le philosophe roi. Socrate, c'est Socrate. Voilà, Socrate, c'est un personnage complètement incarné, complètement individualisé. C'est évidemment le Socrate de Platon.
C'est un citoyen,
C'est un citoyen, effectivement. C'est un citoyen qui n'est, comment dire, qui fait, si vous voulez, qui fait de la critique immanente. Oui, on peut distinguer deux types de critiques, si vous voulez. Une critique, je vais employer un barbarisme, rejectionniste, c'est-à-dire qui rejette en bloc en se mettant à l'extérieur du système qu'elle rejette, et une critique immanente qui va critiquer à l'intérieur tout en acceptant les normes du système. Ben, Socrate fait beaucoup de critiques immanentes. Platon oscille entre les deux. Voilà. Et c'est ça qui rend aussi le texte complexe de ce point de vue-là. Mais encore une fois, le fait que Socrate se soit lui-même astreint à respecter des lois qui avaient été injustes avec lui, n'est pas un argument suffisant, je pense, ni du point de vue de Socrate, ni du point de vue de Platon, pour les bafouer. Voilà. on ne peut bafouer les lois que si on est véritablement savant et que si on a cette fonction qu'est philosophe roi dans un régime idéal. Mais ce régime n'existe pas, pas encore.
Reste que Socrate donne du fil à retordre à ses accusateurs, parce que parfois son discours visant à le défendre, en tout cas tel qu'il est dépeint par Platon dans l'Apologie, fait preuve d'une ambiguïté certaine, c'est-à-dire qu'il se défend d'être coupable de certaines choses, revendique d'être coupable d'autres choses, mais qu'il assume complètement. Il affirme par exemple qu'il n'a jamais été le maître de personne et qu'il n'a jamais rien voulu enseigner, puisqu'on l'accuse d'avoir corrompu la jeunesse, y compris de manière morale. Et dans un extrait de l'Apologie de Socrate, on l'entend donc affirmer qu'il finalement il n'est ni un dieu ni un maître. Écoutez.
Pour ma part, je n'ai jamais été le maître de personne. Mais si quelqu'un a envie de m'écouter quand je parle et que j'accomplis la tâche qui est la mienne, qu'il soit jeune ou plus âgé, jamais je ne fais montre de réticence. Et pas plus que je ne m'entretiens avec quelqu'un pour recevoir de l'argent, je ne refuse de m'entretenir avec quelqu'un parce que je ne reçois pas d'argent. Non, je suis à la disposition du pauvre comme du riche, sans distinction, pour qu'il m'interroge, ou pour que, s'il le souhaite, je lui pose des questions et qu'il écoute ce que j'ai à dire. Et s'il arrive que, parmi ces gens-là, l'un devienne un homme de bien et l'autre non, je ne saurais, moi, au regard de la justice, en être tenu pour responsable, car je n'ai jamais promis à aucun d'eux d'enseigner rien qui s'apprenne, et je n'ai pas donné un tel enseignement. Et si jamais quelqu'un prétend avoir jamais en privé appris quelque chose de moi, ou m'avoir entendu parler de quelque chose dont personne d'autre n'est au courant, sachez bien qu'il ne dit pas la vérité. Mais pour quel motif donc certaines personnes prennent-elles plaisir à passer beaucoup de temps avec moi? Vous avez entendu toute la vérité, Athénien. Car la vérité, je vous l'ai dite, c'est qu'il leur fait plaisir de voir soumettre un examen à ceux qui se figurent être savants alors qu'ils ne le sont pas.
La meilleure défense, c'est l'accusation, c'est bien connu, Dimitri Elmure. Et ici, Socrate, alors déjà, met au point sa définition de la vérité. Vous avez entendu toute la vérité, Athénien, donc ce n'est pas la vôtre, c'est bien la mienne, mais elle vous concerne. Parce qu'en fait, ce que nous dit Socrate dans ce texte, c'est que ce qu'on lui reproche ne lui a pas toujours été reproché. Il en veut pour preuve que la plupart de ses interlocuteurs étaient plutôt contents de discuter avec lui. La vérité, c'est bien celle-là, c'est qu'en fait, il y a un plaisir à discuter avec quelqu'un qui, s'il ne nous enseigne rien, parce que dans ce texte, il se défend d'enseigner quoi que ce soit, au moins nous fait cheminer vers la vérité, et c'est tout ce qui compte.
Alors, disons qu'il y a deux points quand même qui sont frappants, c'est que... On peut pas dire quand même que l'ensemble des dialogues de Platon nous donne l'idée d'interlocuteurs qui sont contents de discuter avec Socrate. On a quand même beaucoup d'interlocuteurs qui sont pas très très contents.
Mais ils restent.
Voilà. Mais ils restent.
Ils pourraient partir, ils discutent.
Mais ils restent, c'est vrai. Mais certains sont contents. Ça, c'est un fait. Deuxième point, évidemment, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait de cette ironie? C'est toujours un problème, évidemment, avec Socrate. Il y a des milliers de pages qui ont été écrites sur cette question. Est-ce qu'il y a différents types d'ironie ou pas, etc. Qu'est-ce que c'est que l'ironie? Qu'est-ce que c'est que l'ironie socratique? Est-ce que Socrate était ironique pour les anciens? Ou est-ce qu'il n'est ironique que pour nous? Enfin, il y a des débats à l'infini sur ces questions qui sont intéressantes et complexes. Moi, j'ai une tendance, je dois vous le dire très franchement, à ne pas vouloir défendre des lectures ironiques à tout bout de champ dès qu'il s'agit de des phrases un peu radicales que Socrate peut tenir. Prenons ce qui vient d'être lu. Il explique, vous me condamnez comme étant un savant, et vous me dites que j'ai corrompu la jeunesse, mais j'ai jamais rien enseigné à personne. Du point de vue de Socrate, il y a un élément évident de vérité là-dedans. Ce que Socrate veut dire autrement, c'est qu'il n'est pas un sophiste. Bon, mais ça, c'est toute l'entreprise platonicienne de apologétique, c'est-à-dire de défense de Socrate, qui consiste à marquer la différence entre Socrate et les sophistes. Le portrait de Socrate dans les dialogues de Platon est un portrait dont la motivation principale est de dire Socrate n'était pas un sophiste. Voilà. Donc les sophistes, c'est ça. Socrate, c'est ça. Voilà. Donc Socrate n'est pas nécessairement ironique. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, bah, on sait bien qu'il enseigne des choses. Tout dépend de ce qu'on entend par enseigner. Mmh. Hein? Encore une fois, il y a un dialogue qui s'appelle le Ménon, qui explique qu'enseigner, c'est se souvenir. De ce point de vue-là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des maîtres? On reformule complètement la question.
C'est-à-dire que le maître n'enseigne rien à son élève dans la mesure où son seul rôle est de mener l'élève à comprendre qu'il sait déjà ce qu'on va lui enseigner.
Voilà, et que surtout, phase négative précédente, tout ce qu'il croit savoir ne vaut pas grand-chose. Mmh. C'est surtout ça, la phase intéressante. Alors, vous allez me dire là encore, mais c'est des blagues, Socrate n'arrête pas d'enseigner. Je répondrai à cette objection que je pense que c'est pas aussi évident. Et qu'en tout cas, quand Socrate, par exemple, au début du banquet, rentre dans la salle où Agathon va célébrer sa victoire et dit à Agathon, tiens, je vais m'asseoir à côté de toi. Non, Agathon lui dit, viens t'asseoir à côté de moi parce que tu vas me remplir de ton savoir. Et que Socrate lui dit, non mais le savoir, c'est pas comme des vases. Ça se remplit pas et c'est pas des vases communicants. Il dit quelque chose de vrai et de profond sur la conception que Platon se fait du savoir et peut-être lui-même aussi, à savoir que effectivement la transmission du savoir, c'est pas un savant qui déverse des connaissances dans un récipient qu'on appelle un élève ou un étudiant. Ça, c'est la conception sophistique du savoir. C'est pour ça que les sophistes demandaient de l'argent. Socrate n'en demandait pas, et il n'avait pas la même conception du savoir. Donc, en un certain sens, j'ai envie de dire, oui, bien sûr, il y a de l'ironie. Bien sûr, il y a une volonté de choquer, une volonté de paradoxe. Mais à un autre niveau, ce que dit Socrate est simplement vrai.
Et puis surtout, ce qu'il dit, c'est que tout ce qu'il a fait, au regard de la justice, il ne pourrait en être tenu pour responsable. Ça veut dire que les chefs d'accusation sont faux. Oui. En cela, c'est une vraie défense.
C'est une vraie défense et le.
Si même s'il est ironique et donc un peu rhétorique, ça fonctionne parfaitement bien dans le cadre d'un procès.
C'est vrai. Mais encore une fois, l'apologie, c'est un texte. Comment dire on n'a pas le temps d'entrer dans ces détails-là, mais si on regarde un peu la manière dont c'est écrit, dont c'est construit, Platon s'est approprié le discours de tribunal de manière comme en général tous les genres auxquels il s'attache, virtuose. C'est vraiment un discours hyper construit où tous les codes sont retournés, utilisés, etc., etc. Donc il y a vraiment tout. Après, le point que je trouve moi, fondamental là-dedans, c'est que Socrate, là, se défend, dit « Mais attendez, mais je ne suis pas un maître, donc je n'ai pas pu corrompre la jeunesse parce que je n'enseigne rien. Cette défense est un tout petit peu contradictoire quand même avec sa contre-attaque qui consiste à dire « Athéniens, vous ne vous souciez pas de la chose la plus importante. » Parce que là, précisément, il y a quelque chose que Socrate enseigne. Et c'est aussi une des leçons de l'apologie.
Et qui est ?
Qui est, vous passez, c'est un très beau passage aux alentours de 30A, un peu avant, où il dit, vous passez votre vie à accumuler des richesses, vous passez votre vie à chercher les honneurs, vous passez votre vie à chercher les charges politiques, etc. Vous accumulez, mais vous ne comprenez pas que la seule richesse, c'est l'excellence, c'est la vertu. Et que donc, c'est la seule recherche qui vaille. Là, on est quand même dans un type d'enseignement, au sens plat du terme, et on est aussi dans la contre-attaque. C'est-à-dire que Socrate ne recule pas. Hein. Lui, tout ce qu'il a cherché à faire, c'est à faire comprendre aux Athéniens ça. Les Athéniens, visiblement, n'ont pas compris. Tant pis, mais il ne s'agit pas de reculer. Et d'ailleurs, c'est ensuite que Socrate va dire, si vous me demandez d'arrêter de faire ce que je fais, savoir de faire de la philosophie, j'en suis pas capable.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire, dans cette logique, Dimitri Elmure, qu'une lecture qui assumerait ou qui prétendrait que Socrate a gagné le procès serait juste?
Mais bien sûr. Mais de toute façon,
pour moi,
c'est une évidence. Non, mais je vais vous dire pourquoi.
Il voit quand même la ciguë, il meurt. Mais il gagne le procès.
Alors, je vais vous répondre à deux niveaux. Un, au niveau de l'histoire et les textes, bien sûr que Socrate a gagné. Enfin, sa mort fait naître la philosophie. Je dis ça un peu de manière grandiloquente, mais c'est quand même un peu vrai. C'est-à-dire que la mort de Socrate, c'est la naissance de la philosophie. C'est la naissance, effectivement, de ce type de discours et de sa radicalité. Et à un deuxième niveau, c'est peut-être le procès le plus célèbre du monde, mis à part peut-être celui du Christ, mais c'est le procès dans lequel c'est le procès qui se rejoue perpétuellement, si vous voulez, à chaque fois que une pensée, un intellectuel, un philosophe est en prise avec un système. Voilà. Donc à ces deux niveaux-là, oui, je pense qu'il a gagné.
Comme si la démocratie finissait toujours par tuer les meilleurs. Et Périclès en a fait les frais aussi.
C'est vrai. Alors, c'est comment dire C'est toujours un problème, effectivement, cette critique radicale de la démocratie qu'on trouve chez les philosophes grecs. Encore une fois, c'est tant un problème qu'on n'a que ça. Personne n'a fait l'apologie de la démocratie. On n'a pas un qui nous a dit « mais si, c'est bien la démocratie ». Aucun. On pense que peut-être Protagoras c'était un peu démocrate, mais il n'y a pas beaucoup d'éléments. C'est un problème parce que, effectivement, on aimerait une défense de la démocratie. Après, je pense que finalement, la grandeur de la démocratie athénienne est ailleurs. La grandeur de la démocratie athénienne, c'est d'avoir permis ça.
Non, mais alors je vous poserai la question autrement. Est-ce que vous pensez que Socrate s'est sacrifié au nom de la démocratie?
Ah! Je pense pas. Je pense pas. Je pense que Socrate, c'est du point de vue de Platon, s'est sacrifié au nom de la philosophie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous me demandez, Athénien, de faire autre chose que je fais. Vous me diriez, OK, Socrate, on va pas te tuer, mais tu vas simplement te taire.
Je le ferai pas.
Je le ferai pas. Voilà. Donc, le sacrifice, il est à ce niveau-là. Et Socrate le dit. Enfin, je veux bien qu'on entende ça aussi. C'est pour ça que j'aime pas l'idée de sacrifice. Socrate le dit, c'est pour mon bien. C'est là où la force paradoxale de Platon va loin. C'est de dire que c'est pour son bien. Puisque la mort n'est pas un mal et qu'on n'a jamais réussi à démontrer que la mort était un mal, c'est pour son bien qu'il continue à philosopher et pour le bien des Athéniens. Donc si les Athéniens lui demandent d'arrêter de philosopher, ils lui demandent de faire quelque chose qui est contre son propre bien. Ce qui est absurde. Donc pourquoi l'accepterait-il? Donc un sacrifice si on veut, mais surtout une vie qui est tellement pénétrée de l'examen philosophique qu'elle ne peut pas se vivre sans.
Regardez-le, celui qu'on ose soupçonner d'être coupable. Oh, oh, c'est pas croyable, mon client. Chef président, messieurs les juges, n'a-t-il pas les yeux d'un homme?
Un grand merci Dimitri Elmire d'être venu défendre Socrate aujourd'hui. Il n'avait pas besoin de vous, mais quand même, les auditeurs avaient besoin de vous pour faire l'écho de sa parole. Socrate par Platon, c'était surtout l'objet de cette émission. Je renvoie les auditeurs à votre livre, à vos livres. Savoir et gouverner, essai sur la science politique platonicienne ainsi que La mesure du savoir, étude sur le tête-à-tête de Platon, deux ouvrages disponibles chez Vrin.
Merci.
Condamnez-le, après tout, puisque peut-être c'est la meilleure chose qui soit arrivée à l'histoire de la philosophie. Ce sera la conclusion de cette émission, Dimitri Elmire. C'est Aileen qui chante « Ne condamnez pas ce beau garçon ». Beau garçon, bon, c'est vite dit, parce qu'effectivement, dans le cas de Socrate, la légende dit qu'il était très laid, mais qui sait, les sources à ce sujet ne s'accordent pas toutes. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il a l'air comme tous les jours de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Heureusement que vous êtes là pour nous rappeler que la philosophie fait aussi partie de l'actualité au sens premier du terme. Alors quelle actualité a retenu votre attention?
Eh bien, deux parutions ont retenu mon attention. Adèle, toutes les deux abordent la question de la destruction et de ses vertus avec cette question « Comment faire de la destruction une invention ?» Ces deux parutions, ce sont « L'ex-forme » de Nicolas Bourriaud, paru au PUF, et « Révolution électronique » sorti aux éditions Alia et présenté par son auteur lui-même dans cet archive qu'on va entendre, son auteur, le célèbre écrivain médecin de la Beat Generation, William Burroughs.
This book was published in 1971, was written in 1970 and 1970.
Révolution électronique date de 1969. Avant Watergate, personne n'attachait d'importance à l'utilisation du magnétophone pour l'espionnage sexuel à usage politique.
It was all written before Watergate, and I feel that Watergate has really borne this book out completely.
Watergate donne toute sa vraisemblance à ce livre.
En 1974, Burroughs lui-même évoquait donc son court texte « Révolution électronique ». Alors certes, cette présentation est loin d'être claire, mais l'idée y est l'usage du magnétophone et de l'électronique en général comme arme de révolution et de révélation. Loin de la critique trop connue aujourd'hui du surplus d'informations, de brouillage des messages, d'invasion médiatique, Burroughs entendait pour sa part se servir au contraire de ce trop-plein de mots et de sons qui se croisent, se contredisent et se détruisent pour agir politiquement. Couper, recoller, rembobiner, jouer, il s'agit bien de développer cette technique paradoxale qui vise à brouiller pour dévoiler et dénoncer, technique qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler sa fameuse méthode du cut-up.
The next step was cut-ups on the tape recorder, and Brian was the first to take this obvious step. Now here are some tapes which Brian made with all the technical facilities of the BBC in London, and they show, I think, what can be done with a human voice and one phrase.
All active, calling,
calling all reactive agents.
All active,
calling all active agents. Recalling all active agents. Recalling.
Mais voilà, le paradoxe de cette technique, qui est donc de révéler la vérité tout en brouillant les messages, est aussi son problème. Burroughs lui-même pose la question, je cite, « Dans quelle mesure les messages brouillés seront-ils débrouillés, c'est-à-dire perçus par des sujets d'expérience? Le contenu réel du message peut-il être reçu? Et comment, je cite encore, « Quelle drogue, par exemple, augmente l'habileté à débrouiller les messages? Les messages transmis par la propre voix du sujet sont-ils plus efficaces que ceux transmis par d'autres voix ? Autrement dit, comment saisir l'essence, la vérité du message au-delà de ses boursouflures, de ces brouillages et destructions, comment valoriser tous ces parasitages, tous ces restes, ces déchets pour en faire des actes révélateurs et même, pourquoi pas, créateurs.
We would never have led the chosen people out of their house of bondage, nor followed with the pillar of the cloud by day. We would never have spoken with the eternal on Sinai's mountain top, nor ever have come down.
En voilà un message brouillé, du moins parasité. C'est la seule archive de James Joyce lisant Ulysse. C'était en 1924. Nicolas Bourriaud, pour sa part, dont l'Exform le cite, il se sert de ces exemples de flux de conscience où ce qui en tombe, leurs déchets, leur donne précisément sens. Comme chez William Burroughs, on trouve ainsi dans l'essai de Nicolas Bourriaud un véritable éloge de ses restes. Mais il va plus loin encore. Alors que nous vivons dans une société de déchets, nucléaires, technologiques, de consommation, il ne faut pas en trouver le sens en deçà, au-delà, mais y voir déjà des formes. Ce sont bien ces ex-formes, tout aussi belles, tout aussi vraies que leur version propre et pure.
Ça donne l'idée d'une philosophie des déchets.
Ah, ce serait pas mal comme semaine.
Ah, ou toute une semaine, ça fait peut-être beaucoup. On va commencer par lire ces livres. Alors, rappelez-nous le titre des livres.
Révolution électronique, donc de Burroughs, c'est aux excellentes éditions Alia. Et puis, l'ex-forme, art, idéologie et rejet, c'est de Nicolas Bourriaud et c'est paru aux éditions PUF.
Non moins excellente. Merci Géraldine. Et merci à David Pargamin qui a préparé cette émission, ainsi que Pauline Vermeuren, Claire Perriman-Holt, Marianne Chassor, Géraldine Bosna-Savoie bien sûr, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Yanis Djoudad qui était à la prise de son aujourd'hui, Georges Claes et Olivier Martineau à la lecture des textes aujourd'hui. Demain, suite et fin de notre série judiciaire sur le procès de Socrate, ce sera l'heure du verdict et le philosophe Luc Brisson sera en studio pour commenter la sentence fatidique. D'ici là, pour écouter l'émission Rien de plus simple, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie pour écouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur nos comptes et nos pages Facebook et Twitter où nous attendons vos remarques et commentaires. À midi sur France Culture, vous retrouverez la grande table d'Olivier Agesbert. Mais tout de suite, à 11h, il est temps, grand temps, de retrouver Florian Delorme pour son émission Culture Monde.